Tribu, Julien Magnolet.
L'arrivée d'un enfant est une des plus grandes aventures que l'on puisse vivre, mais la grossesse et la naissance véhiculent aussi quantité de clichés et de non-dits. Parfois, certaines choses s'avèrent plus difficiles que prévu, ce qui peut fortement ébranler les parents. À quoi faut-il se préparer lorsqu'on pense devenir parent? Quels sont les obstacles qui peuvent survenir? Une exposition tente de briser certains tabous autour de l'arrivée d'un enfant. Elle s'appelle « Bébé en tête ». Elle est à voir jusqu'au 24 mars au Musée de la Main à Lausanne. Et j'ai le plaisir de recevoir les deux conceptrices de cette exposition, Antje Horch et Anne-Sylvie Diazy. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Oh mais quelle... Vous êtes réglés comme des horloges suisses, capables de répondre en même temps. Donc bonjour à vous deux, vous êtes membre du groupe de recherche périnatal de l'Université de Lausanne et du CHUV. C'est une unité qui est rattachée à la faculté de biologie et de médecine. Alors Antje Horch, on nous vend l'arrivée d'un enfant comme un conte de fées. Vous vouliez mettre un petit peu de réalité dans tout ça?
Oui, effectivement, de mettre un petit peu de réalité. C'est vrai que quand même, pour la majorité des personnes, aujourd'hui, ça reste bien sûr un événement qui est très joyeux, très positif, positivement perçu dans la société, bien sûr. Mais c'est aussi important de dire que ça se passe pas forcément comme ça pour tout le monde. Et donc c'est quelque chose, nous on voulait un petit peu montrer dans l'exposition qu'il n'y a pas un chemin qui est tout tracé pour tout le monde.
Mmh. Il y avait qu'un seul récit un peu qui existait. Vous voulez montrer qu'il y a plusieurs récits possibles, c'est ça?
Effectivement, donc il y a plusieurs, il y a beaucoup de vécus différents qui sont possibles. Et c'est important d'en savoir et c'est important aussi de pouvoir partager ces vécus peut-être un petit peu différents avec nos entourages, avec la société aussi plus largement, pour assurer que on ne se sente pas au décalage avec des autres si peut-être pour nous personnellement c'était pas tout parfait.
D'où cette idée de briser des tabous. Anne-Sylvie Diazy, peut-être alors expliquer que ça se passe en cinq étapes. Ça prend très large, on parle vraiment de périnatalité, donc ça va du désir d'enfant, ensuite il y a la grossesse, l'accouchement, les premiers mois du bébé et la fin du congé maternité. Peut-être déjà sur le désir d'enfant, c'est peut-être une évidence, mais il y a quand même des gens qui ne veulent pas d'enfant. Et là aussi, c'est un choix possible de vie que parfois n'est pas assez entendu.
C'est ça, on a eu une approche de la notion de périnatalité assez large, puisqu'on a souhaité effectivement inclure aussi cette question du désir d'enfant. C'est un grand tabou encore de dire aujourd'hui qu'on ne souhaite pas avoir d'enfant, et je pense que c'était vraiment important d'aborder cette question-là aussi. Et même s'il y a désir d'enfant, l'enfant ne vient pas forcément, donc il y a aussi toutes ces questions liées à l'infertilité et aux difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait face à ces problèmes-là. Donc c'est vrai que dans l'exposition, finalement, on a vu qu'à toutes les étapes du désir d'enfant jusqu'au retour à la vie active et professionnelle après la naissance d'un enfant, que cette période-là, au fait, est remplie de tabous multiples.
Sur la question d'avoir ou ne pas avoir des enfants, effectivement, il y a ces deux chiffres, disons, c'est que seulement 10% des 20-29 ans disent ne pas vouloir d'enfants en Suisse. Or, ce chiffre réel, lorsqu'on a 50-59 ans, c'est que 25% des Suisses n'en ont pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Alors, soit on a changé d'avis entre deux, ce qui est possible, soit ça peut être une source d'une assez grande frustration, non?
C'est tout à fait possible, peut-être d'un côté, donc on voulait pas avoir un enfant et finalement c'est comme ça que la vie s'est passée. Mais ça pourrait être aussi peut-être à cause du fait que finalement on n'a pas peut-être rencontré le partenaire qu'on voulait avoir comme coparents. Peut-être il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle comme le travail, notre carrière, d'autres plans qu'on a dans la vie. Mais aussi, bien sûr, il y a l'infertilité qui peut jouer un rôle. Et pas mal de couples, en fait, sont touchés par cette problématique.
Et c'est vrai qu'on s'y met un peu plus tard aussi aujourd'hui qu'avant, ce qui pose parfois des questions de fertilité. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées sur ces questions de fertilité, d'infertilité. Peut-être un rappel, c'est que le parcours de PMA, donc de procréation médicalement assistée, ça peut être assez éprouvant et avec des conséquences, notamment pour les futures mères. psychologique, c'est juste?
Oui, c'est juste. Donc, il y a des études clairement qui montrent que ça peut être un chemin vraiment très compliqué pour les femmes, mais aussi pour leurs partenaires, donc pour le couple. Et donc, c'est une preuve et ça peut faire que on peut se sentir seul, isolé. On peut développer des symptômes de dépression, d'anxiété. Donc, c'est vraiment un parcours qui peut être pas si simple. Et certainement aussi si à la fin, finalement, on peut pas avoir un enfant.
Mmh. Oui, effectivement. Et il y a le coût aussi qui est important, Anne-Sylvie Diazis, c'est ça coûte de l'argent de pouvoir se payer une PMA.
Tout à fait, tout à fait. Ça même, c'est aussi un tabou. Je veux dire, quand on se lance dans un projet comme ça et qu'on engage énormément d'argent, forcément, voilà, ça a aussi un impact important. Mais ce que je voulais souligner aussi, ce que Antier a évoqué, c'est l'importance aussi de l'impact sur les pères, les hommes. Et c'est vrai qu'on était très contents dans l'exposition de pouvoir avoir un témoignage d'un homme, en fait, qui fait face à un parcours d'infertilité de PMA. Parce que là, il y a aussi toutes sortes de choses de mise en question, en fait, de la virilité, peut-être, et qui peut être quelque chose de très douloureux à vivre aussi. Mmh. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il y a effectivement, comme tu l'évoquais, les femmes, les couples, et vraiment important de mentionner les pères aussi, les hommes.
Avant d'évoquer d'autres écueils qu'on peut rencontrer lorsqu'on a ce désir d'enfant, peut-être ce rappel qui vient très vite quand même, parce que certains diront, mais c'est quand même assez négatif, cette vision de la parentalité. Très vite, quand on arrive dans l'exposition, il y a quand même, c'est marqué que c'est une des plus grandes aventures possibles. Et puis que souvent, les personnes qui deviennent parents, c'est un sentiment d'accomplissement énorme. Ça, c'est quelque chose qui compte. C'est comme s'ils avaient réussi leur vie, dans le fond, d'avoir un enfant.
Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que devenir parent, c'est une expérience incroyable. Moi-même, je suis parent, je suis mère, et c'est vrai que ça a changé ma vie, c'est clair, d'une manière très, très positive. Et je pense que ça marque très fortement notre sens d'identité. Et c'est vrai aussi qu'on va cette transition à la parentalité demande aussi à nous, comme personne, vraiment de s'adapter, de changer aussi notre manière de gérer la vie, certaines choses, certaines situations. Ça change la perception, aussi les priorités qu'on a peut-être dans la vie. Ça peut aussi avoir un impact par rapport à nos relations avec nos proches, etc. Donc oui, certainement, c'est une aventure et quelque chose d'extraordinaire.
Est-ce que vous aussi, Anne-Sylvie Diazi, vous parlerez de changement identitaire? Est-ce que c'est une forme de révolution de sa propre personne? On change, on était une personne et on devient parent, ça nous change?
Je pense que c'est effectivement un immense chamboulement parce que voilà, il y a un lien qui se crée avec ce nouvel être qui va changer fondamentalement notre vie, qui va nous amener à perdre peut-être une forme d'indépendance et de liberté qu'on avait avant. Donc c'est pas du tout négatif, mais c'est vrai qu'il faut en être conscient, il faut pouvoir composer aussi avec ça. Et je pense qu'une des difficultés, c'est qu'on c'est pas forcément l'image qu'on donne. On donne vraiment, on renvoie une vision, une image très idéalisée de la parentalité, la maternité. Et c'est ça qui est difficile. C'est peut-être qu'on n'est pas prêt à cette forme d'ambivalence qu'on est amené à vivre après, avec cet attachement extrêmement fort d'un côté, mais aussi cette perte quelque part d'une forme de liberté.
Mais comment vous l'expliquez, tous ces tabous, et on va en aborder encore d'autres, autour de la parentalité? Pourquoi est-ce que ces choses ne sont pas dites? Parce qu'autrement, personne ne ferait plus d'enfants? Ou parce qu'il y a des choses qui sont écoutables et pas forcément, qui vont pas forcément empêcher le désir d'enfant? Pourquoi tous ces tabous persistent encore aujourd'hui?
Alors c'est vrai que d'un côté on a beaucoup on a discuté ensemble avec Anne beaucoup de fois et avec toute l'équipe cette question. Donc d'un côté on a beaucoup accès à plein d'informations aujourd'hui, c'est vrai, avec l'internet, avec les réseaux sociaux, tout est là en fait à disposition, et on peut se demander donc pourquoi est-ce que les futurs parents ne s'informent pas peut-être sur certaines choses et autres, mais c'est pas ça en fait qui fait la différence, c'est pas la disponibilité d'informations qui peut être aussi bouleversante souvent, mais c'est vraiment comment est-ce que cette information est accompagnée par soit des proches ou soit par des professionnels, et aussi d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut faire le tri en fait par rapport à cette information? Donc je pense que ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que il y a plein de choses en fait que qu'on n'ose pas forcément à partager avec les autres parce que il y a un petit peu un sentiment de honte peut-être en lien avec on se sent pas en lien avec l'image qui est souvent projetée justement dans dans les réseaux sociaux des parents parfaits tout souriants qui font tout juste tout bien et donc c'est pour ça on a l'impression qu'on n'est pas comme eux et donc on a un peu la honte en fait d'en parler et donc ça se dit pas c'est pas partagé mais je laisse aussi Anne un petit peu compléter peut-être.
Oui, je pense qu'il y a effectivement ce qui est intéressant de dire par rapport à cette image du parent parfait ou la mère parfaite. C'est vrai que ça fait un moment qu'en fait on essaye de remettre en question ces visions-là. Je dirais qu'il y a eu le mouvement féministe des années 60-70 qui a vraiment essayé de démystifier un peu cette image de la mère parfaite. Et on se rend compte que maintenant, même si quelque part on observe une forme de libération de la parole par rapport à ces choses, et puis je pense que l'exposition finalement en est une expression, mais on remarque malgré tout qu'on a cette image idyllique du bonheur familial parfait qui est quand même très très présente sur les réseaux sociaux où on a des femmes qui se mettent en scène vraiment avec voilà une famille parfaite et ou dans la publicité où c'est une image qui est renvoyée aussi par les médias. Donc finalement on a l'impression qu'on n'arrive pas à se débarrasser au fait de cette représentation idéale et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant parce que ça se fait en parallèle finalement par ailleurs d'une libération de la parole sur ces questions-là.
Et la question de la honte effectivement et de la culpabilité traverse toute l'exposition parce qu'on peut les retrouver à toutes les étapes, de ne pas avoir envie d'enfant, on peut culpabiliser pour ça, ça peut être une grossesse interrompue aussi, etc. Donc nous parlons ce matin des tabous, tous ces tabous qui entourent la naissance avec vous, Anne-Sylvie Dieziez et Antje Horch. On va évoquer Tetris, parce que ça c'est extraordinaire, on se balade dans cette exposition et tout d'un coup il y a le jeu Tetris et on va apprendre que ce Tetris peut beaucoup aider en cas d'accouchement problématique. Mais on va d'abord écouter une femme qui se sent bien.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Mom! magnifique titre de Nina Simone, 1965, Feeling Good. Il y a plein d'autres qui l'ont chanté, mais on retient souvent celle de Nina Simone. On vous retrouve, mesdames Antje Horch, Anne-Sylvie Diassi, nous parlons de cette exposition, Un bébé en tête, qui se passe du côté du musée de la main, en face du CHUV à Lausanne, et qui parle de, voilà, de tous ces tabous qui entourent la parentalité, du désir d'enfant jusqu'au premier mois de l'enfant et au retour au travail. Alors peut-être, je crois que vous travaillez spécialement là-dessus, Antje Horch, la question des traumas. On apprend dans cette exposition qu'il y a environ 12% des femmes qui sont touchées par le stress post-traumatique lié alors directement à l'accouchement, c'est juste ?
C'est juste, tout à fait. Et j'ai un autre chiffre pour vous. Si on demande aux femmes comment a été leur vécu de l'accouchement, environ un tiers de femmes va dire que leur accouchement a été vécu comme étant traumatique.
Mais c'est donc, de quel trauma on parle ?
On parle du trauma qui, donc, les moments traumatiques qui se passent pendant l'accouchement. Donc, c'est toujours en lien avec une perception que soit sa propre vie comme mère a été menacée pendant l'accouchement et ou la vie de son enfant. Donc, c'est vraiment autour de cette perception qui peut des fois être décalée de la réalité, dans le sens que il se peut que, en fait, objectivement, il n'y avait pas une menace de vie, soit pour la mère ou soit pour l'enfant. Mais s'il y avait ce vécu, cette perception, ça peut vraiment être un très grand facteur de risque pour développer ensuite des symptômes du stress post-traumatique.
Et ça a des conséquences, ce trauma-là. Comment ça se manifeste ensuite chez la mère ?
Alors, c'est clair que le symptôme clé du stress post-traumatique, c'est des intrusions traumatiques. Donc, ça veut dire que c'est des pensées invoicives ou des images qui peuvent venir à l'esprit d'une manière qu'on maîtrise pas, donc d'une manière involontaire. Et c'est très 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 difficile à vivre. Pendant la nuit, ça peut être des cauchemars qui reviennent. Et c'est toujours en lien avec des moments de l'accouchement. Et on peut avoir l'impression, en fait, de revivre certains moments de l'accouchement.
Et donc, il y a cette étude incroyable que vous avez menée, que vous présentez aussi dans cette exposition. Vous avez fait jouer des femmes qui viennent d'accoucher, c'est juste, à ce jeu que tout le monde connaît, ou presque, le Tetris. Donc, c'est là où il faut imbriquer des espèces de structures l'une sur l'autre. Oui. Expliquez-nous qu'est-ce que vous avez fait concrètement, puis quels sont les résultats?
Alors, on a fait plusieurs choses. Donc, on a fait plusieurs études avec des femmes qui ont eu une césarienne en urgence. Donc, c'est une modalité de l'accouchement qui porte, en fait, un risque élevé d'avoir un stress post-traumatique après. Et donc, on a demandé aux femmes de jouer le Tetris pendant les premières heures après leur accouchement. Et on a fait aussi une étude, et on est en train de faire une deuxième, avec des femmes qui ont déjà maintenant un stress post-traumatique établi des années après leur accouchement. Okay. Et dans les deux cas, en fait, on a pu montrer que le Tetris peut, en fait, si on le joue tout de suite après l'accouchement traumatique, ça peut prévenir le développement des symptômes du stress post-traumatique, donc particulièrement les intrusions traumatiques, dont les flashbacks, mais aussi d'autres symptômes du stress post-traumatique, et cela jusqu'à 6 mois postpartum. Donc on a fait un suivi jusqu'à 6 mois postpartum. Dans les études où on joue le Tetris des fois des années après l'accouchement, ça peut en fait diminuer les symptômes du stress post-traumatique qui ont été établis avant.
Donc, ce qui est fou, c'est que dans cette étude-là, vous avez fait jouer ces femmes très peu de temps après l'accouchement.
C'est juste.
Et pendant combien de temps ? Pas longtemps, hein.
15 minutes. Dans les deux scénarios que je viens d'évoquer, on joue une fois pendant 15 à 20 minutes. Donc c'est très bref.
Et ce jeu-là permet d'empêcher d'une certaine manière l'inscription du trauma dans le cerveau?
C'est juste. Donc en fait, on pense qu'on peut en fait interférer avec un processus qui s'appelle la consolidation de mémoire. Donc c'est le processus où en fait l'événement traumatique va être inscrit sur notre mémoire de long terme, sur notre mémoire autobiographique.
Mais comment expliquer que vous pouvez le faire aussi plusieurs mois plus tard, et que ça puisse, parce que en gros l'inscription elle est faite, le disque dur il est gravé, non?
C'est juste, exactement, c'est pour ça en fait les femmes reviennent au lieu où elles ont accouché, très brièvement, pendant 10 minutes environ, et ça va nous permettre, on dit, de réfluidifier en fait ce mémoire traumatique qui va ensuite nous permettre d'interférer de nouveau avec un processus qu'on appelle maintenant la reconsolidation de mémoire.
Un autre tabou qui est abordé dans cette exposition, c'est la question de la dépression. Et là, on apprend notamment qu'il y a 15% des femmes qui sont touchées, mais il y a aussi 10% des hommes. Ça aussi, c'est un tabou, Anne-Sylvie Désy, cette dépression postpartum. Là aussi, tout doit être magnifique, tout doit fonctionner. Et puis, en fait, non, ça ne fonctionne pas forcément bien.
C'est ça, et c'est vrai qu'on parle peu, on informe peu sur le vécu du postpartum et la difficulté qu'on peut vivre durant cette phase-là. Et c'est vrai que dans l'exposition, on a souhaité vraiment permettre aux visiteurs de ressentir au fait ce qu'un parent peut éprouver pendant cette phase-là. On a mis en place au fait une forme de tour dans laquelle le visiteur peut entrer au fait dans la pensée intérieure d'une maman, d'une jeune maman qui fait face au fait à ce sentiment de culpabilité, d'impuissance, de perte de contrôle et aussi peut-être cette difficulté finalement à communiquer même avec son partenaire. Pour raconter au fait la difficulté de son vécu.
Je suis entré dans cette tour et on entend des mots qui sont durs à entendre mais qui tournent dans la tête de certaines mères. Ça devrait être pas aussi dur, je fais tout faux, tu mérites mieux que moi, dit-elle à son enfant, je devrais être heureuse. Et c'est toutes des choses qui sont effectivement difficiles à dire en société parce qu'on a souvent honte en tant que mère d'avouer ça ou de dire on se sent mal en fait.
C'est ça, c'est vraiment de nouveau ce mythe de la mère parfaite. Et quand on n'entre pas là-dedans, effectivement, c'est extrêmement, extrêmement dur. Socialement, c'est extrêmement dur de pas avoir cette image-là.
La chose peut-être à rajouter, c'est pas que les mères qui en souffrent. Hein. Il y a aussi des pères, des coparents qui souffrent de la dépression périnatale d'ailleurs. Donc, ça peut être soit avant l'accouchement ou en postpartum. Et de nouveau, c'est un tabou, on n'en parle pas.
Autre tabou, c'est la question du deuil. Il peut prendre plusieurs formes. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup moins de mères qui meurent en couche, mais il peut y avoir des fausses couches, on appelle des fausses couches tardives, il peut y avoir des enfants qui décèdent à la naissance. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et là, il y a quand même aussi ce message un tout petit peu d'espoir, parce que c'est quand même assez dur, c'est une phase assez dure à aller voir dans cette exposition, mais qui dit que ça peut aussi faire grandir les parents. Il y a pas mal de parents qui disent ça, c'était très très dur, mais ça nous a fait grandir.
Oui, c'est très connu comme phénomène. En fait, après des événements traumatiques qu'on a vécu, bien sûr, il y a beaucoup de souffrance, souvent, et surtout avec le deuil, c'est une période qui est très très difficile à vivre. Mais c'est très connu aussi dans la recherche, on a pu montrer ce phénomène qui s'appelle la croissance post-traumatique, où donc il y a vraiment ce vécu. En fait, les parents parlent aussi pendant l'exposition. Donc oui, on a dû traverser cette période très très difficile, très compliquée pour nous, mais ça nous a permis aussi quelque part de grandir comme parents, et ça nous a aussi permis quelque part de réaligner nos priorités dans la vie, et aussi certainement réévaluer nos relations avec nos proches, avec l'entourage, avec des personnes qui sont importantes pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est souvent vécu.
C'est une exposition, il faut souligner, qui est gratuite, hein, donc ça ne coûte rien, on peut y aller. C'était aussi un de vos buts, c'était de permettre au plus grand nombre d'aller voir cette exposition.
C'est ça, tout à fait. On souhaitait vraiment, effectivement, que le plus grand nombre puisse accéder. C'est vrai que le musée, c'est aussi un espace où on ne va pas forcément. Donc, on souhaitait vraiment rendre ce lieu le plus public possible. Et aussi, en organisant beaucoup d'événements, l'idée, c'était vraiment, de nouveau, de favoriser ce dialogue. Donc, on a organisé beaucoup d'événements. Je sais plus combien on a, mais en tout cas, presque 50, je crois.
Enfin, c'était, et il y en a énorme. Deux cette semaine, c'est juste un
et
premier jeudi.
Il y en a deux
jeudi.
Cette semaine, hein, qui je vous invite vraiment à venir. Donc jeudi, on a une table ronde qui va réunir différents spécialistes pour dialoguer autour des questions de l'accouchement. Donc l'accouchement, un voyage imprévisible. Et qui sera une soirée tout à fait spéciale, puisque en première partie, on aura une lecture performance par Léonore Beau et Vincent Barras. Donc ils liront un texte nommé « Catastrophe absolue des flux », qui au fait raconte le vécu personnel, l'expérience traumatique personnelle de l'artiste artiste Léonore Beau, qui a vécu une complication grave pendant son accouchement. Et samedi aussi, une projection d'un film sur le deuil périnatal organisé par deux associations, et voilà, qui permettra aussi de dialoguer sur ces difficultés-là.
Donc pas mal d'événements à venir sur cette exposition Bébé en tête, qui est à voir jusqu'au 24 mars au Musée de la Main à Lausanne. Et je crois qu'il va ensuite bouger en Suisse avec une itinérance prévue. Merci beaucoup Anne-Thierry et Anne-Sylvie Diazi.
Merci à
vous. Je rappelle que vous êtes toutes deux membres du groupe de recherche périnatale de l'Université de Lausanne et du CHUV, qui est donc rattaché à la faculté de biologie et de médecine. Bonne suite de journée à vous deux.
Merci à vous aussi.
À la technique ce matin, il y avait José Moreno. Nous avons parlé naissance aujourd'hui. Bien, demain, nous irons à l'autre bout de la vie, puisque nous parlerons de la mort, plus précisément des corps des défunts et de comment on peut les utiliser ou pas dans la science, la médecine ou encore dans l'art. Tout de suite, les décodeurs qui sont toute cette semaine du côté de Neuchâtel. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de journée à l'écoute de la première.
Tribu, Julien Magnolet.